Alors voici l'enregistrement d'un thème qui me tient à cœur, qui est l'évangélisation. D'aucuns diraient la nouvelle évangélisation. Et je voudrais vous faire partager quelque chose qui a mûri en moi depuis un certain temps. Cela fait une paire d'années que je puis dire que je suis chrétien. Ma conversion fut brusque. J'avais 17 ans, maintenant j'en ai 41, vous imaginez. Et je remarque une chose, plus ma relation avec le Seigneur s'approfondit, plus j'ai envie de ce que l'on pourrait appeler évangéliser. Et comment dire, la première partie de cet enregistrement pourrait s'intituler « Pourquoi évangéliser ?» et ensuite nous verrons comment évangéliser. Alors pourquoi évangéliser? Je viens déjà de donner un élément de réponse. Je viens de dire qu'en fait, plus je connaissais le Seigneur, plus j'avais envie d'en parler. Eh ben, l'évangélisation, c'est un terme un peu barbare, mais c'est tout simple. Pourquoi évangéliser? Ce serait comme poser la question, pourquoi parler d'une personne que l'on aime? Ben, parce qu'on l'aime. Quand on aime une personne, on pourrait dire même, des fois, ça marche aussi pour quelque chose. Mais alors plus forte raison pour une personne. Quand on aime, quand on a une passion, on aime la partager. Alors pour une personne, vous imaginez comme cela est encore plus vrai. D'ailleurs, quand on est amoureux, on ne peut pas s'empêcher de parler de la personne qu'on aime. Ben, je dirais que si on a découvert le Seigneur comme un ami qui nous aime à chaque moment, à qui on peut se confier, il est tout à fait naturel de vouloir en parler. C'est d'abord ça l'évangélisation. Je dirais que la première raison pour laquelle on peut évangéliser, ou on se doit d'évangéliser, c'est tout simplement parce que on aime le Seigneur. Et une autre raison serait ne pas être, comment dire, égoïste. Effectivement, si nous avons découvert le Seigneur, si nous sommes persuadés qu'il est notre bonheur, si nous avons fait l'expérience de ce bonheur, comment pourrait-on le garder pour soi? Hein, comment pourrait-on, comme Jésus dit, l'évangile, la bonne nouvelle n'est pas faite pour être mise sur le boisseau, c'est une lampe qui doit éclairer. Il faut bien y penser. Comment, si on a trouvé le moyen d'être heureux, pouvoir le garder pour soi? C'est aussi une générosité. Parce qu'on parle souvent de partager, d'aider les autres au niveau matériel. On parle de chrétiens. Chrétien égale aider les autres matériellement, et c'est vrai. Mais c'est aussi aider les autres spirituellement. Combien de gens dépriment, combien de gens n'ont pas de but dans la vie? Nous avons trouvé un but, nous avons trouvé le chemin. Et alors, comment pourrait-on le garder pour nous? Ça serait vraiment terriblement égoïste. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il me vient deux versets bibliques. Le premier se trouve au livre des Actes des Apôtres, et c'est les apôtres qui y ont été arrêtés, et voilà ce qu'ils disent au verset 12 du chapitre 3 des Actes des Apôtres, aux pharisiens et aux sadducéens qui les avaient arrêtés. Pierre déclare, il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Nous avons la réponse, c'est notre responsabilité de la transmettre. Ensuite, comment dire, je parlais de l'égoïsme, donc, et ça me rappelle un autre texte. Donc là, le texte que je viens de citer, c'est pour nous montrer que finalement, nous avons trouvé le bonheur, notre ami. C'est notre responsabilité de transmettre. Et un autre texte me vient à l'esprit, c'est le livre d'Amos. Alors, c'est en Amos chapitre 8, du verset 1 à 7. Et nous avons une critique très virulente d'Amos, des riches qui ne pensent qu'à eux, qui se repaissent de leur richesse, qui se vautrent dans le luxe pendant que des pauvres meurent de faim. Alors bien sûr, d'apprendre au premier degré, au niveau matériel, mais c'est aussi au niveau spirituel. Et alors, pensons à ce texte avec, comment dire, la fin spirituelle en tête. Et alors, nous verrons quelle est notre responsabilité. Alors voilà un mot, s'il parle, donc il dit « couché sur des lits d'ivoire, vautré sur leur divan, Il mange les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Donc voilà, nous, nous avons la richesse spirituelle. Nous nous repaissons de la parole de Dieu. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores. On peut, là aussi, nous pouvons penser à l'Eucharistie. Nous avons le privilège de communier à Dieu. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Alors nous avons notre petite spiritualité, nous sommes heureux, nous avons la lecture de la parole, nous avons les trésors de la tradition de l'Église, la liturgie, et c'est le désastre autour de nous. Il suffit de regarder notre monde. Alors que faisons-nous? Comme eux? Alors voilà la réponse de Dieu. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. C'est tout simple. Si en tant que chrétiens, nous n'évangélisons pas, nous n'existerons plus. C'est peut-être ce qui arrive aussi à l'Église. Quand l'Église perd son sens missionnaire, elle s'attiédit, et alors, tout simplement, il n'y a plus d'Église. Eh bien, dans notre vie, nous pouvons en faire l'expérience. Si notre but est d'évangéliser, de partager cette présence que nous avons en nous, de parler de notre ami Jésus-Christ, alors notre voix s'approfondira. Un petit peu comme un sport, en le pratiquant, on s'améliore. Eh bien, l'évangélisation, c'est une image un peu qui a ses limites, bien sûr. Mais l'évangélisation, c'est le sport de l'esprit. C'est le sport du chrétien. Je dirais, plus qu'un sport, c'est une nécessité. Et vous verrez, si vous avez en tête l'évangélisation, le partage du Seigneur, alors votre foi se fera plus forte. Tout simplement parce que déjà, votre responsabilité de témoin sera engagée. Et vous prendrez plus au sérieux votre vie de chrétien. Parce que vous savez que votre vie est aussi, est d'abord et avant tout un témoignage. Donc dans ce cas-là, il n'est pas question de vivre une double vie. Chrétien du dimanche et païen la semaine. Donc voilà le texte d'Amos. Si nous voulons exister, si nous voulons que notre foi se renforce, il faut évangéliser. Un autre texte qui nous rappelle notre responsabilité, le salut éternel. Très souvent, nous pensons que tout le monde est sauvé. Ça, c'est aussi un obstacle. On a visite à évangéliser parce que nous pensons à tort que bon, tout le monde est sauvé. De toute façon, à quoi ça sert d'évangéliser puisque tout le monde est sauvé? Alors, c'est vrai, Dieu appelle tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde, mais tout le monde n'est pas sauvé. Parce que tout simplement, les hommes qui n'ont pas été préparés à recevoir l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, enfin, ou très vaguement, comment pensez-vous qu'ils voudront vivre leur éternité? Avec un inconnu? Sûrement pas. Donc notre devoir, c'est de faire connaître Jésus pour que les gens aient envie de passer du temps avec lui, déjà maintenant et dans l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de magie. Si les gens ne connaissent pas Jésus, s'ils ont une vie où leur bonheur n'était pas en Jésus-Christ, et qu'on leur a même donné une fausse image de Jésus, bah, à l'heure de leur mort, comme par magie, comme ça, Dieu violerait leur liberté? Pas du tout. Donc il faut que nous ayons cette responsabilité, il faut que nous soyons conscients, pardon, de cette responsabilité, de vraiment faire connaître le Christ pour que les gens aient envie de passer du temps avec lui. Alors je pense à Jean chapitre 5, versets 24 à 29, où effectivement on dit, Jésus disait aux Juifs, oui vraiment je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, pour être sauvé, donc il faut écouter sa parole et croire au Père. D'accord? Après, Jésus parle de la résurrection, il dit, l'heure vient où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Tout le monde entendra sa voix, c'est vrai. Mais seulement ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire ceux qui ont écouté sa parole et donc qui croiront au Père qui l'a envoyé. Donc, après, le Christ continue dans ce chapitre 5 de Saint Jean. Ne soyez pas surpris, il en revient où ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Alors, tout le monde ressuscite, effectivement, mais pas tous pour la vie. D'autres pour être jugés. Alors, faire le mal, c'est déjà agir mal envers son prochain, mais c'est aussi avoir renié Dieu, ne pas l'avoir aimé. Et si on n'aime pas Dieu, très souvent, on n'aime pas non plus son prochain dans la mesure où on est très égoïste, centré sur soi, car le moi abîmé par le péché est nécessairement égoïste. Donc, le mal, l'indifférence, l'orgueil, ces choses-là, sont ancrées au cœur de l'homme. Seul Jésus peut enlever, ce péché qui défigure notre véritable humanité. Donc, les gens sont appelés à ressusciter. Mais notre responsabilité, c'est que quand ils ressuscitent pour la vie parce qu'ils auront écouté Jésus. C'est bien ce qu'il dit. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quelle responsabilité! Nous avons cette responsabilité. Notre responsabilité est engagée. Si nous ne parlons pas, si nous ne montrons pas Jésus aux autres, qui le fera? Comment pourront-ils se lever et écouter la voix du Christ? C'est impossible. Donc c'est bien à nous de le faire. Personne d'autre ne le fera parce que Dieu veut passer par l'homme en respectant sa liberté. Donc il veut qu'il soit par nous. C'est bien le sens aussi de ce passage où Jésus dit: tout ce que vous lirez sera lié dans les cieux, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Si nous ne délions pas les liens de nos frères, alors ils seront toujours liés au ciel. Alors, comment dire? On peut comprendre maintenant cette parole de Saint Paul, terrible, donc qui se trouve au, comment dire, 1 Corinthiens 9, chapitre 16, qui, tout simplement, qui est connu, où il dit, donc je cite: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il faudrait que ce verset soit ancré dans nos mémoires, parce que Saint Paul avait bien conscience de sa responsabilité. Alors donc, je disais, si je veux conclure un peu cette première partie sur pourquoi évangéliser, comment dire, un obstacle, c'est le relativisme. C'est-à-dire que si tout le monde est sauvé, ça ne sert à rien de témoigner. Comme je viens, j'espère, de vous le montrer, ce n'est pas aussi simple que ça dans la parole de Dieu. Notre responsabilité est engagée. Deuxième chose, c'est tout à fait naturel. Si notre amour du Christ est véritable, nous aurons envie de toute façon de partager cet ami que nous avons découvert. Que si simplement nous contentons de vivre notre petite foi, excusez-moi, sans vouloir le partager, notre amour du Christ est-il profond? Avons-nous une relation personnelle avec lui? Et je vais enfin aborder un autre chapitre dans ce pourquoi évangéliser qui est important. Un autre obstacle à l'évangélisation est que beaucoup pensent à tort que toutes les religions se valent. Ça, c'est aussi un autre relativisme. Hein, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, finalement, tout le monde croit en Dieu plus ou moins, donc à quoi ça sert d'évangéliser? Alors, il faut bien comprendre que si les apôtres avaient agi de la sorte, eh bien, nous ne serions pas chrétiens. Parce que les apôtres, quand ils rencontraient des gens qui croyaient en d'autres dieux, n'essayaient pas de dire: bon, ils ont leur dieu, ça va. Ils essayaient de leur parler du Christ. Et sachez que l'hindouisme, par exemple, est une religion tout aussi polythéiste que l'étaient les religions de l'Empire romain. Donc, je ne vois pas pourquoi notre attitude devrait être différente. Ensuite, comment dire, prenons le bouddhisme. Le bouddhisme, il faut le savoir, a plusieurs branches, mais la véritable branche d'origine est une branche philosophique. Le bouddhisme ne croit pas en Dieu. Le bouddhisme, c'est un peu la tour de Babel. Nous surmontons au ciel par nos propres moyens et nous essayons de nous sauver par nous-mêmes, dans une espèce de roue automatique, qui, par réincarnation successive, nous déshumanise totalement pour enfin nous fondre dans une espèce de divinité informe. Alors, si les gens n'ont que ça comme salut, ben, je pense que c'est triste. Alors que nous avons découvert un Dieu qui nous aime infiniment au point de mourir pour nous, notre devoir n'est-il pas de leur donner l'espérance? Ensuite, oui, avant de passer à la suite, je reprends cette image de Babel. Finalement, l'homme essaye de sauver par lui-même, alors que Dieu descend vers lui. Eh bien, c'est nous qui devons faire descendre Dieu vers les hommes par notre témoignage, parce que Dieu veut passer par nous dans le respect de notre liberté. Cette extraordinaire liberté que Dieu nous accorde et la responsabilité qu'il nous donne. Finalement, c'est une preuve de confiance. Je dirais que Dieu a foi en l'homme parce qu'il veut passer par nous. Il veut faire de nous ses collaborateurs. Eh bien, nous pouvons le remercier pour ça. Je fais un peu un panorama. Prenons l'islam, par exemple. Alors, l'islam, bien sûr, il croit en Dieu. Mais je dirais que il vous suffit de lire le Coran. Finalement, la meilleure façon de connaître l'islam, c'est de lire le Coran. Vous vous rendrez compte que le Coran est un livre très juridique qui n'a d'égal que les passages souvent les plus arides de l'Ancien Testament, car moi-même je l'ai lu, et le Dieu du Coran est extrêmement lointain, pour ne pas dire arbitraire parfois. Alors, et le paradis du Coran est un peu un paradis au rabais, où l'intimité avec Dieu n'est pas garantie, contrairement à ce que nous dit Jésus, par exemple, quand il dit que tous vivront pour Dieu, quand il parle de la résurrection aux Sadducéens. Quand Paul, par exemple, dit « Dieu sera tout en tous », c'est pas du tout ça, c'est le paradis musulman. Et les musulmans, finalement, doivent aussi essayer de se sauver. Alors Dieu est miséricordieux, mais il faut quand même faire de bonnes œuvres et lutter sans être jamais sûr de son salut. Alors, c'est effectivement un peu triste. Et surtout, ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a une absence de possibilité de relation personnelle avec Dieu dans l'islam. Eh bien, je dirais que le Dieu d'islam est un Dieu déformé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vrai Dieu, mais une image déformée de Dieu. Et ça, c'est important pour nous chrétiens de leur montrer que le seul vrai Dieu est celui dont le Christ nous a révélé le visage. Et on pourrait continuer ainsi. Alors bien sûr, ce relativisme a comment dire, est encouragé, mais par certaines mauvaises interprétations, par exemple, de ce que Vatican II a dit. Parce que Vatican II a reconnu effectivement des valeurs positives dans les religions, mais simplement comme terreau ou une évangélisation. C'est d'ailleurs, au chapitre de 14 à 16 de Lumen Gentium, c'est-à-dire le chapitre dédié à l'Église. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans ces chapitres que je viens de citer de Vatican II, c'est qu'un petit peu, les religions ne sont pas du tout montrées comme égales l'une à l'autre. Et on pourrait dire qu'ici, l'Église catholique est représentée, enfin, les religions en général, sont vues comme dans un cercle concentrique, c'est-à-dire plus on est proche du centre, plus on est proche de l'Église catholique, et plus on s'en éloigne, plus on est loin du centre, c'est-à-dire de l'image du vrai Dieu. D'ailleurs, pour vous donner une idée, voici les chapitres, par exemple dans Lumen Gentium, donc sur l'Église, le premier chapitre s'intitule Les fidèles catholiques, chapitre 14, ensuite les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques. Après, on poursuit, on s'éloigne un petit peu du cercle du centre, les non-chrétiens, on parle des juifs, ensuite des musulmans, et en dernier, des autres religions, bouddhistes, hindous, etc. Donc, on voit bien ici que c'est bien l'Église catholique, le christianisme, et en particulier l'Église catholique, qui a l'image la plus exacte de Dieu, qui est en mesure d'offrir à l'humanité la relation la plus enrichissante avec Dieu, et que les autres religions, bien qu'elles aient bien sûr des éléments de vérité, n'en sont pas moins éloignées de Dieu. D'ailleurs, le chapitre 17 donc parle de ces semences de Dieu dans les autres religions comme des ferments pour une véritable évangélisation. Et il faut savoir que Benoît XVI, par exemple, bien sûr, il est un fervent adepte du dialogue avec l'islam, par exemple, mais il ne voit pas du tout une discussion théologique avec eux. Il voit surtout une discussion morale. On peut bien sûr collaborer avec eux pour lutter contre l'avortement, ce genre de choses. Mais une discussion théologique est impossible. Donc, toutes les religions ne se valent pas. Donc, je résume la pensée, pourquoi évangéliser? Ben, je dirais parce que on aime véritablement le Christ et on a envie de partager ce que l'on aime. Ensuite, on est conscient qu'on a la clé du bonheur. Nous avons des richesses et nous devons ouvrir les yeux sur ce monde qui est pauvre spirituellement, qui a soif de Dieu, où les gens sont déprimés, etc. Mère Teresa disait que la pire des pauvretés, c'est la solitude. Mais si on a le Christ comme ami personnel, il y a plus de solitude. Et on s'ouvre aussi sur les autres et on découvre aussi des frères. Et ensuite, les autres religions, il faut savoir que si leur vision de Dieu est déformée, ils ont forcément quelque chose qui leur manque dans leur vie. dont nous avons une responsabilité. Ce qui
Free audio post-production by Alphonic.com.